Bonjour cher Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'aventure continue. Après Ulysse, hier, l'anti-Indiana Jones qui combat les dieux et traverse les mers mais qui fait de la vie quotidienne l'aventure suprême, aujourd'hui c'est en hélicoptère que nous allons partir, un hélicoptère qui va nous emmener loin, très loin, au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Elle est en route sur les chemins de la philosophie, on commence par la fin.
CBR Street Gang, this is Almighty. Standing by, over. CBR Street Gang, this is Almighty. Standing by, how do you copy?
They were gonna make me a major for this. And I wasn't even in their fucking army anymore. Everybody wanted me to do it. Him most of all. I felt like he was up there, waiting for me to take the pain away. He just wanted to go out like a soldier, standing up. Not like some poor, wasted, rag-assed renegade.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise.
Bonjour Marc Poré.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de littérature anglaise à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Et c'est à vous que l'on doit la parution ce mois-ci et la fin du mois dernier d'un choix de texte de Joseph Conrad, un travail collectif bien sûr, qui a engendré un résultat merveilleux, je dois dire, à la couverture verte et violette. C'est une première et c'est très engageant, très réussi, donc bravo et merci d'être là aujourd'hui. On commence par la fin avec un extrait, un mix proposé par notre réalisateur Thomas Beau de Apocalypse Now, le film de Coppola qui s'inspire de Cœur des Ténèbres. Mais en fait, c'est assez cohérent parce que le roman, le texte de Conrad du Cœur des Ténèbres, eh bien, commence avec un long retour en arrière et se termine avant le début du roman, en fait.
Oui, voilà, c'est l'anamnèse. Je veux dire, c'est la racine, l'origine même du récit, de tout conte, de toute parole orale. C'est le retour en arrière, c'est la régression, quelque part aussi, vers le temps que l'on remonte. Et donc, on remonte le fleuve Congo, on remonte à l'origine, hein, de l'aventure, à l'origine d'un récit que Marlowe, le narrateur de l'un des narrateurs, dirais-je, du Cœur des Ténèbres, s'apprête à prononcer.
Marlowe est donc l'un des narrateurs, vous l'avez dit, car ce récit est fait de plusieurs récits. On voyait hier, en parlant de l'Odyssée avec Pierre-Judith Lacombe, que en fait, le cœur de l'aventure était le fait de raconter même ce qu'il se passe. C'est exactement pareil avec le cœur des ténèbres.
C'est exactement pareil, c'est-à-dire que le début du cœur des ténèbres est l'un des plus beaux débuts qui soit, parce que Conrad pose, hein, le décor. C'est-à-dire que nous sommes sur la Tamise, proche de l'estuaire. La nuit va tomber, nous sommes entre chien et loup, à l'heure du crépuscule, et bientôt Marlowe, le conteur, dont la voix va se dégager, ne sera plus visible, on ne distinguera plus ses traits, mais on entendra sa voix. Hein, et nous sommes à la radio, donc le côté magnétique de la voix, hein, c'est la voix de Marlowe qui va commencer l'histoire. Et cette voix de Marlowe est elle-même hantée par une autre voix, la voix de Kurtz. Donc nous sommes dans un récit à voix multiple. Et l'aventure chez Conrad, elle a ce côté stratifié, elle a ce côté emboîté, enchâssé. C'est une voix dans une voix. Mais quelque part, c'est toujours l'emprise de la voix. Nous sommes sous l'emprise d'une voix. Et donc, pour faire le lien avec Coppola, l'impérialisme américain, l'impérialisme britannique ou belge ou français chez Conrad, nous sommes au cœur d'une réflexion qui porte sur qu'est-ce que l'empire et qu'est-ce que être sous l'emprise d'une voix. Parce que finalement, Marlowe, comme le jeune russe au manteau d'Arlequin, ils sont tous ces personnages, ils sont tous sous l'emprise de Kurtz.
Mais là, vous écrivez comment voix, l'emprise d'une voix?
VOX, hein, c'est-à-dire...
La question se pose.
Oui, la question se pose parce qu'on peut aussi dire que c'est une voie maritime. Enfin, je veux dire, on accède à ce continent noir, obscur, cette terra incognita qui se trouve être l'Afrique. On y accède par une voie maritime, par une voie d'eau. C'est toujours ainsi que procède Conrad, c'est-à-dire que Conrad, que je prends pour un romancier amphibie, nous propose des fictions qui sont à la fois terrestres et maritimes. Mais il a une préférence hein, pour justement ces voies maritimes, de même qu'il a une préférence pour la façon dont un navire, un bateau, va connaître une voie d'eau, c'est-à-dire à la suite de je ne sais quel accident sous la ligne de flottaison, le bateau va couler parce qu'il y aura eu une voie d'eau. Donc nous sommes dans les voies, quelle que soit la façon dont on les orthographie.
Quand Au cœur des ténèbres paraît en 1899, Joseph Conrad a déjà écrit quelques textes, il en écrira d'autres, et dans beaucoup de ces textes, on retrouve en effet cette importance du bateau, de la voie maritime. Ça a un lien avec la propre vie de Conrad et sa jeunesse.
Ça a un lien tout à fait avec sa jeunesse. Une de ses plus belles nouvelles s'appelle justement Youth, Jeunesse, hein, 1903. Je recommande aux lecteurs intéressés, curieux, de se plonger dans Conrad, de commencer par là, de commencer par Youth. Et donc, pour résumer un peu hein, rapidement la trajectoire personnelle de Conrad, il naît polonais dans l'Ukraine polonaise en 1857, c'est-à-dire un lieu, tout ce qu'il y a de plus continental, tout ce qu'il y a de plus enclavé. Son père est déporté en Russie pour agitation révolutionnaire. Et donc, le jeune Conrad le suit, ainsi que sa mère. Très vite, sa mère meurt, son père meurt aussi, il se retrouve orphelin. Et bref, pour aller vite, à 17 ans, il décide de couper les ponts avec la Pologne, de partir. Je veux dire que toute grande destinée romanesque ou littéraire commence sans doute par une rupture. Pardon, c'est un peu un cliché, mais dans ce cas-là...
Parfois, comme... les clichés sont vrais.
Exactement. Et donc, du coup, la rupture, c'est... qu'il décide, à la stupéfaction générale de sa famille, de se faire marin. Et donc, il quitte la Pologne et il débarque à 17 ans à Marseille. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il va attraper l'accent marseillais et il continuera à parler français avec l'accent de Marseille et continuera à parler anglais avec l'accent sans doute polonais, mais enfin bref. Donc, à 17 ans, il est à Marseille et il embarque... À bord, ça ne s'invente pas, à bord d'un navire qui va le mener à la Martinique, et le navire s'appelle le Mont Blanc. Voilà. Et donc, pendant 5 ans, il va naviguer sur des bateaux français, sur la marine marchande française. Et puis, à la suite d'une déception amoureuse, à la suite de complications administratives, pour échapper au service militaire, il file à l'anglaise. Et à 21 ans, il se retrouve en Angleterre. Et il connaît 5 mots d'anglais. Et quelque part, je ne sais pas s'il se l'est dit inconsciemment, mais à 21 ans, avec 5 mots d'anglais devant lui, il se dit « je vais être un romancier de langue anglaise ». Et l'un des plus puissants, l'un des plus forts qui soit. C'est assez ahurissant, c'est assez exceptionnel. Voilà.
C'est-à-dire qu'à un moment, quand on lit Conrad, même en anglais, on se dit... On réalise que c'est un auteur dont la langue anglaise n'était pas sa langue maternelle.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a chez lui une sorte d'étrangèreté ou d'étrangeté, je ne sais pas comment il faut dire. Il y a quelque chose, surtout dans les premiers textes, ensuite il lisse un petit peu sa langue, mais dans les premiers textes, par exemple le nègre du Narcisse, où il est très appliqué, où il se regarde écrire, et où il veut imposer l'idée qu'il peut... être un grand romancier de langue anglaise, il y a souvent des constructions qui ne sont pas tout à fait anglaises. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'entre-deux, Hein, comme Marlowe tout à l'heure, mm-hmm. entre deux eaux, entre deux terres, entre deux langues. On est quelque part dans l'entre-deux, c'est indéterminé, c'est incertain, et on sait que c'est de l'anglais forcément, mais ça ressemble furieusement à du français, ça ressemble à du Flaubert, ça ressemble à un peu du Maupassant, qui étaient ses maîtres absolus. Et donc, du coup, son anglais conserve quelque chose de l'ordre, alors non pas de l'exotisme, mais de l'appel d'un ailleurs. Et c'est ce qui installe hein, cette langue dans une sorte de fascination insondable.
Avec beaucoup de ruptures qui interviennent parfois au milieu des phrases, ruptures voilà. rythmiques ou ruptures même sémantiques.
Oui. Rupture, et vous avez prononcé le mot rythmique, c'est-à-dire que pour moi, la clé de Conrad et de sa langue, c'est le rythme. C'est-à-dire que on peut se référer par exemple à la fin de la nouvelle Youth, où il y a un puissant mouvement ternaire qui vient boucler le dispositif. Mais constamment chez lui, ses paragraphes se bouclent, sont chevillés, sont puissamment orchestrés. Il y a quelque chose chez lui de l'ordre de l'orchestration, et donc le rythme, il est palpable, il est tangible, il est ce qui vous happe, il est ce qui vous entraîne irrésistiblement au centre d'un vortex, et le vortex, il est soit au cœur de l'Afrique, soit il est du côté de la baie de Siam, il est du côté de l'Orient. Je veux dire que Youth décrit la première traversée vers l'Orient d'un jeune homme, c'est sans doute Conrad, transposé. C'est déjà la naissance de Marlowe, et ce jeune homme a 20 ans. Il embarque pour Bangkok. Il est déjà allé en Australie, mais l'Australie, c'est Pipicha à côté de Bangkok. Hein? La puissance, le charme de l'Orient, hein, tel qu'il se résume à ce Bangkok, ce nom de pays, dirait Proust, hein, Bangkok. Et cette traversée, pour aller vite, c'est un désastre absolu, c'est un foirage phénoménal. Le bateau peine à partir, il s'appelle le Judée, le bateau. À trois reprises, il est obligé de rebrousser chemin parce qu'il y a des voies d'eau, parce que la coque est vermoulue, rien ne fonctionne. Et puis quand, enfin, hein, c'est devenu un gag, une sorte de running gag, quand enfin le bateau lève l'ancre et appareil pour Bangkok, d'abord la traversée va s'éterniser, et puis ensuite surtout le charbon qui était à bord va se mettre à brûler, je veux dire que hein, et le bateau va sombrer dans une sorte d'incendie généralisé à la Turner, enfin quelque chose d'assez apocalyptique déjà, apocalypse now, et le bateau s'abîme au large de l'Orient. Et l'ironie, parce qu'il y a toujours beaucoup d'ironie chez Conrad, veut que, attiré par cette traversée pour son côté romanesque, hein, la devise du bateau, c'est « vaincre ou périr ». Et donc, du coup, le jeune Marlowe, il est fasciné, « vaincre ou périr », voilà quelque chose de romanesque. Mais l'ironie va vouloir que c'est à bord d'un canot de sauvetage qu'il va arriver à Bangkok. Je veux dire, hein, en ayant laissé le bateau derrière lui, qui va s'abîmer en mer dans un incendie digne des plus grands peintres de marine qui soient. Mais quelque part, ce souvenir d'un ratage phénoménal va rester ce que Marlowe, finalement, a compté de plus beau dans sa vie. C'est-à-dire que c'était la jeunesse, c'était sa première découverte de l'Orient. L'Orient avec ses sensations, ses senteurs, ses odeurs, son exotisme puissant. Tout ça, bien sûr, s'est abîmé, a reculé dans le temps. Mais c'est le plus beau souvenir qui soit.
Mais pour moi, tout l'Orient tient dans cette vision de ma jeunesse. Il est tout entier dans cet instant où j'ouvris sur lui mes yeux de jeune homme. Je l'avais rencontré après un corps à corps avec la mer, et j'étais jeune. Et je le voyais qui me regardait. Mais voilà tout ce qu'il en reste. Rien qu'un instant. Un instant de force, de rêve, d'enchantement, de jeunesse. Un éclair de soleil sur un rivage étrange, le temps d'un souvenir, le temps d'un soupir et adieu, la nuit, adieu. Il but. Ah, le bon vieux temps, le bon vieux temps, la jeunesse et la mer, l'enchantement et la mer, la bonne, la rude mer, la mer âcre et salée, qui pouvait tout aussi bien vous chuchoter à l'oreille ou rugir contre vous et vous faire perdre le souffle sous ses coups. Il but de nouveau. Par toutes les merveilles du monde, c'est la mer, je crois, la mer elle-même, ou bien est-ce simplement la jeunesse? Qui sait? Mais vous, ici présent, vous avez tous tiré quelque chose de la vie. L'argent, l'amour, tout ce qu'on trouve à terre. Et dites-moi, n'est-ce pas là la meilleure époque? L'époque où nous étions jeunes marins, jeunes et ne possédant rien sur cette mer qui ne fait pas de cadeaux, si ce n'est de rudes coups et donne parfois l'occasion d'éprouver sa force. Rien que cela, ce que vous regrettez? Et nous inclinâmes tous la tête pour acquiescer. L'homme de finance, l'homme de chiffres, l'homme de loi, nous inclinâmes tous la tête en signe d'acquiescement par-dessus la toile cirée qui, telle une nappe d'eau brune immobile, reflétait nos visages sillonnés de rides, nos visages marqués par le labeur, par les déceptions, par le succès, par l'amour. Nos yeux là, cherchant encore, cherchant toujours, cherchant ardemment à extraire de la vie ce quelque chose qui, tandis qu'on l'attend encore, a déjà disparu, a passé sans qu'on le voie, en un soupir, en un éclair, en même temps que la jeunesse, que la force, que le romanesque des illusions. Dans ce texte donc de la jeunesse, vous nous avez raconté l'aventure, en voici donc un extrait. On se demande si finalement l'aventure pour Conrad n'est pas tout simplement synonyme de jeunesse.
Absolument, elle est là, c'est la meilleure façon de la définir. Et donc du coup, explicitement et implicitement, quand on relate l'aventure, elle est toujours derrière soi.
C'est ça.
Elle est toujours derrière soi parce qu'on leur a noté, Marlowe par exemple, quand il est narrateur de Youth, il a 22 ans de plus hein, que l'âge auquel il avait.
Hein, que c'est l'âge... aussi Marlowe qui est narrateur de Youth.
Oui, voilà.
Comme hein, le narrateur du Cœur des Ténèbres.
Exactement, c'est là où Marlowe prend naissance. Et donc le récit se fait 22 ans plus tard. Donc toujours chez Conrad, il y a ce décalage, hein, il y a ce gap entre l'expérience vécue et puis sa relation par la parole et par la voix. Et c'est intéressant de repartir de Youth parce que le personnel hein, qui se trouve autour, réuni autour de Marlowe, est exactement le même que le personnel réuni autour de Marlowe au seuil du Cœur des Ténèbres. Ce sont les mêmes gens, ce sont les mêmes personnes. Il y a toujours dans l'histoire un juriste, il y a toujours un comptable, il y a toujours un financier. On pourrait dire que ce sont des gens assis. On n'ira pas jusqu'à dire que ce sont des gens rassis, mais ce sont des gens assis que lie la puissante solidarité de la mer. Ce sont des gens pour qui compte la navigation marchande, pas la navigation de plaisir. Ça, Conrad le dit très bien, les croisières, les régates, tout ça, c'est les plaisirs de la vie. C'est respectable. Mais la seule navigation qui vaille, c'est la navigation marchande. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la vie. Donc d'un côté, il y a la vie, et de l'autre, il y a les plaisirs de la vie. Et donc, pour revenir à ce petit personnel là qui est réuni et qui boit les paroles de Marlowe, parce que c'est ça, hein, un conteur. C'est une bouche, c'est le haut de la bouche ouverte, et puis ce sont les auditeurs qui écoutent. Et donc, ces auditeurs-là, eh bien, ils ont été unis comme les doigts de la main, mais quelque part, eux ont cessé de bourlinguer, tandis que Marlowe, lui, perpétue l'esprit de l'aventure. Eux, peut-être, ont trahi hein, l'aventure passée. Marlowe est celui qui fait le lien entre l'aventure passée de la jeunesse et puis l'aventure présente. Et donc, eux sont assis et lui est toujours en mouvement. Il est nomade, ils sont devenus sédentaires.
On va lui passer le relais, on va écouter Marlowe, donc le vieux marin de la compagnie où embauchait le narrateur d'Au cœur des ténèbres, va raconter comment lui est venue cette vocation d'aventurier alors qu'il n'était pas encore en âge de voyager. Ça se passe dans la salle d'attente du médecin. Écoutez, c'est le comédien Yvan Morane qui prête sa voix à Marlowe.
Il se trouve que, quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques. Je passais des heures à contempler l'Amérique du Sud ou l'Afrique ou l'Australie et à m'absorber dans toutes les splendeurs de l'exploration. À l'époque, il y avait beaucoup d'espaces vierges sur les planches des atlas. Et lorsque j'en voyais un qui me paraissait spécialement séduisant sur une carte, mais tous ont cet air-là, je posais le doigt dessus et disais « Quand je serai grand, j'irai là ». Le pôle Nord était l'un de ces endroits, je m'en souviens. Eh bien, je n'y suis pas encore allé. Et maintenant, je n'essaierai plus. Le charme s'est évanoui. D'autres lieux étaient éparpillés du côté de l'équateur et à toutes sortes de latitudes sur toute la surface des deux hémisphères. Je suis allé dans certains d'entre eux et... Allons, on ne va pas parler de ça. Mais il en restait un, le plus grand, le plus vierge, si je puis dire, après lequel je soupirais toujours. À ce moment-là, il est vrai, ce n'était plus un espace vierge. Depuis mon enfance, il s'était rempli de fleuves, de lacs, de noms. Il avait cessé d'être un espace vierge au délicieux mystère, une tache blanche sur laquelle un petit garçon pouvait bâtir de lumineux rêves de gloire. C'était devenu un lieu de ténèbres. Mais il y avait là un fleuve en particulier, un fleuve énorme, que l'on voyait sur la carte tel un immense serpent délevé, la tête dans la mer, le corps au repos s'incurvant longuement par une vaste contrée et la queue perdue dans les profondeurs du continent. Et comme je regardais ce pays dans une vitrine, il me fascina comme un serpent fait d'un oiseau sans cervelle. Le serpent m'avait lancé un charme.
France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons d'aventure cette semaine et aujourd'hui, au cœur des ténèbres. C'est la direction que nous suivons en compagnie de Joseph Conrad et de Marc Poré, avec nous en studio pour nous guider dans ces ténèbres. D'ailleurs, le mot de ténèbres apparaît dès le texte que l'on vient d'entendre, il est là tout de suite.
Il est là tout de suite, les ténèbres sont premières, elles sont dernières, mais elles sont premières. Et on notera à propos de ce texte que, à un mot près, ou quasiment, dans ses souvenirs personnels, Conrad racontait la même chose à propos du jeune Joseph qu'il était. En d'autres termes, entre le Conrad biographique, biologique, et puis le Marlowe fictif, il n'y a pas de différence. C'est Joseph qui, lui aussi, voulait mettre le doigt sur la carte. C'est lui qui rêvait d'évasion. Et on pourrait établir ici, à propos du motif de l'aventure qui nous réunit, on pourrait établir une sorte de lien ou de passerelle toute trouvée, toute naturelle entre, par exemple, Conrad et Stevenson. Parce que cette scène de la carte, elle est à l'origine du plus beau, peut-être, de tous les romans d'aventure qui se trouve être L'île au trésor de Stevenson. L'île au trésor, on s'en souvient, débute par ou quand Stevenson commence par dessiner une carte, la colorier. C'est la carte, c'est le motif de la carte qu'il dessine qui le met en branle son imaginaire. Cette carte, à la suite de différentes péripéties, se perd et s'égare dans les renvois à l'éditeur. Il est obligé d'en composer une autre, mais il ne retrouvera jamais le charme de la carte d'origine, originelle. Et donc on voit la filiation. On voit la filiation entre Stevenson. Je rappelle que Stevenson meurt en 1894 aux îles Samoa, au Pacifique, hein, dans l'autre hémisphère. Et Conrad publie son premier texte en 1895, c'est-à-dire un an plus tard. De même, Conrad écrit un roman intitulé Chance, Fortune, en français, qui reprend le motif de la carte de Stevenson, très explicitement. Et donc, du coup, quelque part, Conrad, qui par ailleurs méprisait de manière assez condescendante Stevenson parce qu'il le trouvait trop commercial, pas assez artiste, c'était se méconnaître le talent de Stevenson, qui est un puissant styliste et un grand artiste de l'aventure. Mais quelque part, il y a une filiation. C'est le même motif hein, de la carte. Et
le fantasme de l'espace vierge.
Le fantasme de l'espace vierge, de ce trou blanc qui n'est plus tout à fait blanc, parce qu'effectivement, vient le moment où l'aventure va se refermer sur elle-même, se replier, parce que l'univers, le globe, ont été entièrement couverts, retracés, explorés en tous sens. Mais disons qu'à l'origine du mouvement hein, du cœur des ténèbres, il y a le même mouvement qui est celui des explorateurs anglais, français aussi, mais bien sûr anglais prioritairement. C'est-à-dire que avant que Marlowe s'ébranle en direction du Congo belge, eh bien il y a eu des explorateurs anglais. C'est la mémoire de ces grands explorateurs que le texte de Conrad remue quelque part. Et donc ces explorateurs, pour les nommer, on pourrait mentionner dans un premier temps Mungo Park, qui est le premier occidental à explorer le fleuve Niger. Mungo Park est un Écossais, 1771-1806. Quand il rentre au pays, Mungo Park écrit « Voyage dans l'intérieur de l'Afrique »,« In the interior ». Donc on voit bien cette intériorité, elle vient de loin. Et puis mentionnons, pour l'histoire, hein, un autre grand explorateur, c'est bien sûr David Livingstone, hein, qui meurt en 1873, qui meurt de maladies, de fièvre, sans doute contractée sur place, un peu comme Kurtz. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas d'établir ici un parallèle, mais le grand Livingstone qui découvre la vallée du Zambèze, qui recherchait les sources du Nil, et qu'un certain Stanley va venir chercher, un petit peu comme Marlowe qui remonte à la recherche de Kurtz. Hein, et on se souvient que pour David Livingstone, il y avait une manière simple de décrire la civilisation occidentale qu'il représentait. Et c'était C pour cartographie, c'était C pour commerce et c'était C pour christianisation.
Pourquoi Marlowe part-il au début du texte? Alors, on retrace l'histoire. Quelqu'un qui n'a jamais lu Le Cœur des Ténèbres, pourquoi part-il?
Marlowe part parce que, quelque part, au fond du Congo belge, donc, un collectionneur d'ivoire du nom de Kurtz, collectionneur d'ivoire au départ, impérialiste, on découvre aussi qu'il a été poète, qu'il a été peintre, qu'il a été musicien. Donc ce Kurtz est quelque part en train de se dévoyer. C'est-à-dire que de collectionneur d'ivoire, il est devenu trafiquant d'ivoire et il est en train de mener une concurrence féroce, acharnée, au directeur d'une société commerciale, d'un comptoir commercial. Et donc, du coup, on comprend que c'est une sordide affaire de concurrence, de rivalité. Et donc, le candide de service, ce sera Marlowe. On va lui demander d'aller chercher le Kurtz, là, qui est en train de « go native », comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui est en train de connaître une sorte de dégénérescence. Hein, je rappelle que Le Cœur des Ténèbres, c'est quand même un texte fin de siècle. C'est quand même un texte qui résonne en écho, par exemple, de 1892, Max Nordau, Dégénérescence. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas d'inquiétudes et d'angoisses hein, qui sont des angoisses fin de siècle. Et donc, ce personnage de Kurtz, il faut à tout prix le ramener à la civilisation.
Oui, dégénérescence au sens de déshumanisation.
C'est ça, déshumanisation, peut-être aussi miscegenation, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que bon, on lui prête toutes sortes de mœurs, évidemment, dissolues, et peut-être qu'il est en train d'engendrer toute une race de bâtards. Enfin, je veux dire, hein, cette espèce de fantasme de l'amour avec la femme non blanche, la femme indigène.
Donc il faut sauver la civilisation occidentale.
Il faut sauver la civilisation occidentale. Et on confie ce travail à Marlowe. Cette tâche le dépasse a priori, mais enfin, le voilà parti avec son bâton de pèlerin. Il va donc ramener Kurtz à bon port. Mais là aussi, l'ironie veut que, au moment où il se retrouve, au moment où la jonction se fait, Kurtz est déjà en train de mourir. Et donc, il ne sera jamais remonté ou rentré, répercuté, renvoyé à la civilisation qu'il n'aurait jamais dû quitter. Un des moments les plus forts de ce texte, qui en compte énormément, c'est la scène où l'on voit Kurtz en train de pagayer sur une pirogue et on pense qu'il va rentrer donc, au comptoir, qu'il va rentrer dans le rang, qu'il va se plier à l'ordre de la colonisation, de la civilisation. Et puis, brusquement, sans crier gare, et il n'y a pas d'explication. On le voit rebrousser chemin, la pirogue se retourne, et il pagaie dans le sens inverse. Et là, cette scène où l'on voit Kurtz de dos, où il devient l'homme de dos, c'est-à-dire non plus celui qui fait face, mais celui qui choisi de manière délibérée de faire sécession, de s'abstraire du processus de la civilisation, qui entend le récupérer à son compte pour des raisons sans doute qui sont des raisons évidemment cyniques, de profit mal placé ou bien placé. Mais ce moment où il rebrousse chemin, c'est sans doute le moment le plus puissant du texte.
On va écouter un extrait qui conduit à ce moment et tout semble penser que, avant même que cette scène ait lieu, Marlowe puisse préfigurer ce qu'il va se passer puisqu'il décrit le paysage et les gens qu'il voit en termes très très durs. Il parle il se demande s'il n'y a pas un caractère inhumain au personnage qu'il rencontre, de terre préhistorique. On y entend la mission, disons, de civilisationnelle dont il est investi, la dimension morale aussi très très forte. Écoutez ce texte interprété par le comédien Yvan Morin.
Nous avancions à l'aventure sur une terre préhistorique, sur une terre qui offrait l'aspect d'une planète inconnue. Nous aurions pu nous prendre pour les premiers hommes entrant en possession d'un héritage maudit dont il fallait se rendre maître au prix d'un profond tourment et d'un labeur excessif. Mais tout à coup, comme nous franchissions un coude à grand-peine, un coup d'œil révélait des murs de joncs, des toits de paille pointus, une explosion de cris, un tourbillon de membres noirs, une masse de mains qui claquaient, de pieds qui frappaient le sol, de corps qui oscillaient sous le dais de feuillages lourds et immobiles. Le vapeur avançait laborieusement au bord d'une frénésie noire et incompréhensible. L'homme préhistorique nous adressait ses malédictions, ses prières, ses souhaits de bienvenue. Qui pouvait le dire? Nous étions totalement coupés de la compréhension de ce qui nous entourait. Nous passions doucement, tels des fantômes, perplexes et secrètement épouvantés comme le seraient des gens sains d'esprit devant un débordement d'enthousiasme subi dans une maison de fous. La terre paraissait un autre monde. Nous sommes accoutumés à regarder le corps entravé d'un monstre vaincu, mais là-bas, on avait sous les yeux une chose monstrueuse et en liberté. C'était un autre monde et les hommes étaient... Non, il n'était pas inhumain. Eh bien, voyez-vous, c'était ça le pire, se douter qu'il n'était pas inhumain. Ça vous venait tout doucement. Il hurlait et bondissait et tournoyait et faisait d'horribles grimaces. Mais ce qui vous faisait frémir, c'était précisément l'idée de leur humanité, semblable à la vôtre. La pensée de votre lointaine parenté avec ce tumulte effréné et passionné. Affreux. Oui. C'était assez affreux.
était dans le assez, hein. Affreux, oui, c'était assez affreux, ce qui n'est pas vraiment une nuance, mais plutôt le signe de la perplexité absolue dans laquelle se trouve le narrateur. Alors, au bout de l'aventure, plutôt au cœur de l'aventure, il ne retrouve pas la jeunesse, laquelle serait symbolisée par le fantasme des terres vierges, mais l'inhumanité au cœur même de ce qui devient de plus en plus des ténèbres au sens premier du terme.
Oui, les ténèbres, bien sûr, existentielles, les ténèbres métaphysiques. On rappelle en anglais que c'est « darkness hein, », le terme premier, « heart of darkness ». Darkness, c'est l'obscurité et c'est presque la perception philosophique ou ontologique de ce qui est « dark ». On rappellera que juste avant de composer « Au cœur des ténèbres », Conrad avait longuement discuté avec un pays à lui, un Polonais, hein, qui était professeur de philosophie et qui venait de traduire le banquet de Platon en anglais. Et donc, du coup, c'est au sortir de ces longues discussions philosophiques hein, sur l'essence sur l'idée, enfin, je veux dire, sur le caractère ontologique de ce que c'est que la notion de noirceur. Mmh. C'est au sortir de ça que Conrad se dit, voilà un sujet, mais à la différence des philosophes, pardon, Conrad va traiter ce sujet dit philosophique en romancier. Et le texte qu'on vient d'entendre, là, nous offre des éclats de noirceur, nous offre des fragments de noirceur, qui sont des fragments à base de blocs de sensations, hein, c'est-à-dire quelque chose qui, bien sûr, est plus tangible et plus palpable qu'un concept philosophique, mais ce qui ressort profondément, hein, c'est cette parenté avec l'inhumain, c'est cette humanité commune avec les sauvages, avec les cannibales. L'ironie grinçante de ce récit, c'est que les personnes hein, les plus civilisées de toute cette gigantesque opération de maintien de l'ordre hein, et de récupération du stock d'ivoire, les personnes les plus civilisées, ce sont les cannibales que Marlowe a embauchés pour servir de membres d'équipage sur son steamer rouillé. Ce sont eux qui font preuve de la plus grande retenue. Il les a embauchés en connaissance de cause. Ce sont des cannibales, il le sait. Ils ont emporté pour tout viatique un morceau de chair d'hippopotame pourri. Et bien sûr, on n'en peut plus, on jette l'hippopotame par-dessus bord et les cannibales n'ont donc plus rien à manger.
Ce qui est une mauvaise idée de laisser...
C'est déjà une mauvaise idée.
Sans nourriture.
Mais Marlowe, quelque part, a l'intuition, ou plutôt l'instinct très, très fort, qu'ils ne vont pas passer à l'acte. Que ces cannibales vont, quelque part, respecter une forme de parole donnée et vont faire preuve de cette ahurissante retenue qui se dit en anglais « restraint ». C'est-à-dire que, voilà, empêchez-moi de dévorer hein, le capitaine. Eh bien non, ils ne vont jamais le dévorer. Et quelque part, ce sont eux qui incarnent la retenue, alors que tout autour, hein, les colons, les petits blancs, les grands blancs, tous hein, sont mus par une sorte de cupidité, d'avidité, sans borne, sans retenue. Et donc, du coup, hein, les données se renversent absolument. La retenue est du côté du cannibale, l'absence de retenue et du côté du civilisé.
Conrad avait-il lu Montaigne ? Parce que c'est exactement ce qu'il décrit dans son chapitre sur le cabinage cannibale dans les essais.
À l'évidence, Conrad avait beaucoup lu, il avait lu Shakespeare, et donc du coup, quelque part, il avait aussi lu Montaigne, c'est évident. Oui.
Qui situe justement du côté du cannibalisme ben le maximum de civilisation finalement, alors que Montaigne décrit les gens de son temps qui s'entretuent au nom des religieux. Il dit au moins quand les cannibales tuent un homme et voire le mangent, c'est pour une bonne raison, contrairement à nous. Le personnage de Kurt est vraiment très intéressant parce que c'est lui qui incarne cette transition vers une forme d'inhumanité qui prend la forme, et là les termes sont importants, parfois de monstruosité, parfois simplement de folie, et parfois de déchéance. Il y a quand même une dimension très morale dans ce texte.
Déchéance, oui, je veux bien le croire. C'est-à-dire, il y a chez Kurtz, il y a quelque chose, pardon, hein, je brûle les étapes sans doute, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'épuisement. L'épuisement d'un Beckett, par exemple, ou l'épuisement hein, de Gilles Deleuze écrivant sur Beckett et proposant ce concept de l'épuiser. Il y a effectivement une immense lassitude chez Kurz, hein, arrivé au terme de sa vie. Sa vie, bien sûr, faite de déchéance morale, évidemment, faite de dissolution, faite d'amenuisement physique. Enfin, je veux dire, quand on le retrouve, ce grand gaillard qui fait 7 pieds de haut, 7 pieds, hein, je veux dire qu'il y a une sorte d'exagération épique, hein, qui est un des principaux ressorts du récit d'aventure. Ce grand gaillard qui s'appelle Kurz, et je rappelle que Kurz en allemand, ça veut dire court, ça veut dire bref, ça veut dire petit. Donc ce grand gaillard n'est plus qu'une sorte de spectre. Il est spectral, c'est un cadavre. C'est un cadavre qui bouge à peine. Et la seule chose qui bouge chez ce Kurz, c'est sa voix. Encore une fois, je me répète, mais la voix de Kurz. Hein, la voix de Kurz qui va continuer comme le serpent hein, du fleuve, qui va continuer à exercer son charme. On ne peut plus puissant, bien sûr, il s'agit d'un charme vénéneux. Il s'agit d'un charme mortel, il s'agit d'une sorte de sortilège puissant qui fait tourner les têtes et qui fait croire et n'importe quoi, à n'importe qui.
C'est ça, il séduit.
Il séduit, c'est le grand séducteur. Pour moi, il fait partie de ces grands séducteurs du théâtre de Shakespeare, c'est presque Richard III. Voilà, pour moi, Kurz, c'est Richard III. Et on sait que ça figure en toutes lettres hein, dans le récit de Conrad. Après sa mort à Bruxelles, quand on repense à sa carrière, jamais on n'aurait dû l'embaucher, hein, ce gaillard, c'est sûr. Mais quand on repense à sa carrière, voilà ce qu'on se dit. On se dit, ce type, il aurait fait un superbe chef de parti extrême. Chef de parti extrême, hein, je n'invente rien, c'est du Conrad dans le texte. Et donc du coup, quelque part, l'anticipation de Hitler, et d'ailleurs George Steiner, le romancier, l'essayiste, le philosophe, a écrit un superbe roman, assez contesté d'ailleurs, mais qui s'appelle « Le transport de A.H. », le transport d'Adolf Hitler, et qui est une sorte de mixte hein, entre la trajectoire de Hitler et la trajectoire de Kurz. En d'autres termes, Steiner dépeint Hitler sous les traits de Kurz et vice-versa.
D'ailleurs, les derniers mots de Kurz sont enfin, la répétition du même mot. Je vous laisse le prononcer.
Voilà, the horror, the horror. Et donc,
l'horreur
absolue, l'horreur à son comble. Et cette parole, comme toutes les paroles oraculaires, on pourrait dire de Kurz qu'il est un oracle aussi. Il est une bouche d'ombre, comme Marlowe l'est aussi, mais cette bouche d'ombre, elle laisse passer hein, des paroles mystérieuses, des paroles qui plongent dans un abîme de perplexité. C'est-à-dire, dit-il, j'ai horreur de l'horreur que j'ai accomplie, ou dit-il simplement, l'existence humaine, le monde sont une horreur. Et on se souvient que dans une lettre à l'un de ses amis, Conrad écrivait « L'homme est un animal méchant, la société est criminelle ». C'est-à-dire que très clairement pour Conrad, hein, il a une vision assez pessimiste, noire, on va dire hobbesienne, hein, de la société. Hobbes, hein, l'auteur du Léviathan, « L'homme est un loup pour l'homme, la guerre de tous contre tous ». Donc, est-ce que c'est ça que dit Kurz? Est-ce qu'il est saisi à l'instant de mourir d'une sorte de remords ou de repentir à l'idée de l'horreur qu'il a accomplie, dans laquelle il a trempé? On ne sait trop. Et c'est d'ailleurs le propre de ses paroles ultimes, d'être ambigu.
C'est peut-être un regret autant qu'une fascination.
Exactement, c'est le double. C'est la double valence hein, de la chose. Marlowe, lui, par contre, va s'empresser de trahir.
C'est ça qui est passionnant.
Voilà, c'est ça qui est le plus passionnant.
Il ne répétera jamais ces termes à la fiancée de Kurz.
À la fiancée, la promise, comme on l'a traduit dans un texte. C'est Jean-Jacques Mailloux hein, qui traduit la promise. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il traduise la promise au lieu de la fiancée, parce que quelque part on renoue avec la romance, on renoue avec le récit d'aventure. Tout récit d'aventure doit comprendre une belle dame, éventuellement sans merci. Et donc Marlowe rentre à Bruxelles, dans une Bruxelles crépusculaire. Il lui-même sort d'une maladie, à la suite du décès de Kurtz, lui-même tombe malade, passe à côté de la mort. Donc on voit là qu'il s'agit d'une expérience limite. Lui aussi a failli passer de l'autre côté du miroir. Mais il revient à Bruxelles, dans une Bruxelles fantomatique, et il frappe à la porte de la promise. Et la promise éperdument amoureuse, lui demande quelles ont été ses dernières pensées, quels ont été ses derniers mots. Et là, Marlowe, qui, par ailleurs, ne jure que par la vérité, qui promet, qui jure de respecter absolument, en toutes circonstances, la vérité des choses, là, Marlowe va accomplir ce que l'on nomme en anglais « a white lie », c'est-à-dire un mensonge blanc. Je veux dire un mensonge pieux. Il va dire, ses dernières pensées ont été pour vous. Son dernier soupir a été de prononcer votre nom, votre prénom. Et donc voilà, le récit se termine sur ce mensonge pour embellir quelque chose. Comme si Marlowe était pris par une sorte de remords ou de culpabilité. Tout en trouvant Kurtz remarquable, il ne cesse de dire « voilà un homme remarquable ». Quelque part, il se rend bien compte de l'énormité du crime dans lequel Kurtz a trempé.
La question est de savoir si lui-même ne se souille pas au moment où il ment. J'allais vous faire écouter une adaptation par France Culture de la fin du texte, mais vous l'avez si bien raconté, Marc Poré, que votre voix suffit à faire imaginer aux auditeurs ce qu'il se passe. Mais voilà, c'est quand même la question finale. Est-ce qu'au moment où Marlowe, après avoir traversé des fleuves pour essayer de sauver Kurtz, qu'il l'a vu mourir, il retrouve sa fiancée au moment où il ment? Est-ce que ce n'est pas lui qui devient un sauvage à ce moment-là?
Oui, bien sûr. Alors, le motif ou le prétexte qu'il avance, c'est « je ne voulais pas ajouter de la ténèbre à la ténèbre. Je ne voulais pas que ça devienne trop ténébreux. Mais » Mais quelque part, dans ce dernier geste, il y a comme une façon de, finalement, de se tenir au bord, et de faire un pas en arrière et de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Oui.
Sagesse ou corruption?
Oui,
c'est la question.
Quelque part, Marlowe s'en tient à une position liminaire. Au début du roman, il est sur le seuil de l'histoire. À la fin du roman, il est encore sur le seuil de l'histoire. Il ne veut pas prendre position. C'est un petit peu son, je veux dire, ce qui le détermine. On se souvient aussi que la transformation presque physique de Marlowe, dans l'ombre, dans la pénombre, fait de lui un personnage de plus en plus oriental. À la fin du récit, quand ses auditeurs ouvrent les yeux quelque part, ils distinguent un Marlowe devenu Bouddha, comme une sorte de Bouddha oriental, en état de lévitation qui planerait au-dessus des choses. Saisissant. C'est la dernière image que l'on a de Marlowe tout à la fin. Marlowe en Bouddha oriental. Alors donc, effectivement, sagesse, oui, sagesse de qui ne cherche pas finalement à se prononcer.
C'est d'autant plus surprenant que, là pour le coup, si on distingue Marlowe de Conrad, Conrad écrit dans ses souvenirs personnels, quelques réminiscences, donc c'est en 1912, après la rédaction d'Au cœur des ténèbres, il se vante d'avoir été d'une sobriété absolue. Dit-il. Il dit qu'il n'a jamais perdu une seconde le sentiment de sa responsabilité, qu'il a fait par goût, qu'il a essayé de mener ce travail sobre toute sa vie. Il insiste beaucoup sur cette sobriété. On y entend encore plus la dimension morale, quand même vraiment très présente. Ce qui est difficile, du coup, rétrospectivement, de ne pas lire cette fin comme une espèce d'interrogation, mais qui est presque rassurante, Marc Poré, parce que finalement, tout ce qui vient atténuer la dimension morale pour le lecteur peut aussi faire figure d'un soulagement.
Oui,
on n'a pas envie qu'on nous fasse la morale en lisant le texte.
Non, bien sûr. Parlons un peu de cette sobriété. Cette sobriété, elle est paradoxale, comme toujours chez Conrad. C'est-à-dire que Conrad, effectivement, dans ses souvenirs personnels, qui sont tout à fait étonnants, revient comme un petit enfant pour dire à quel point il peut être fier de lui et de sa carrière de marin, parce qu'il a franchi tous les échelons, les uns après les autres. Ça a été parfois un peu laborieux, par exemple, pour devenir commandant. Il a dû s'y reprendre à 2-3 fois. Il n'a pas eu ses diplômes du premier coup. Il a dû repasser par la session de rattrapage. Mais, dit-il, ce qui le caractérise, et tous les relevés de carnet de bord le démontrent à l'envi, c'est qu'il a toujours fait preuve de la plus grande sobriété. En d'autres termes, il a été tout sauf un marin imaginatif.
Sauf un aventurier, peut-être. Même.
Voilà. Mais le marin non imaginatif, c'est par exemple le capitaine McQuarrie dans la nouvelle Le Typhon, qui lui aussi a quelque chose d'un peu obtus, d'un peu bête. On lui dit, il y a un typhon qui va se produire. On pourrait éviter ce typhon, dit Jukes, son second. Mais non. McQuarrie a décidé que son devoir de marin, c'est de passer au travers du typhon. Et donc, il va passer au travers du typhon. Donc, cette sobriété, elle est exemplaire et elle se donne en modèle. Mais, dans le même texte, un tout petit peu plus loin, Conrad est bien obligé de reconnaître que certes, il y a eu la sobriété. Certes, il y a eu cet esprit de sérieux, presque allemand, que Nietzsche n'aurait pas aimé, à l'évidence. Mais il y a eu aussi le romanesque, il y a eu aussi l'imagination. Et donc, du coup, le résultat, c'est que Conrad est constamment tiraillé pour le plus grand bien de ses lecteurs. Mmh. Pour le plus grand bien de ses lecteurs, il est constamment tiraillé entre la sobriété, le devoir de solidarité, bien faire son métier, bien faire son métier de marin, bien faire son métier d'écrivain, tenir la barre fermement, savoir qu'on peut se reposer sur quelqu'un qui tient la barre en toutes circonstances, et puis ces échappées, ces espèces d'appels de l'aventure qui sont des appels d'air auxquels il n'est jamais question de résister parce que l'aventure peut mourir, mais elle ne se rend jamais.
Nous aussi, on a été tiraillés en préparant cette émission avec deux fins possibles, soit donner à entendre la chanson d'Indochine, L'Aventurier, avec le fameux Bob Moran, soit sur votre suggestion, Marc Poré, Tariq Oregan, Heart of Darkness, qui est une forme d'opéra contemporain, qui donne à entendre My Name is Marlowe. Qu'est-ce que vous choisissez ?
L'opéra ? Parce qu'il y a quelque chose d'opératique chez Conrad.
My name is Marlowe.
Marlowe.
The steamer.
I.
The
steamer is at the bottom of the river.
What's
up? 2 days ago.
Why?
A volunteer was in charge. Everything is all right. Quite correct. I was there. I could not wait. I had to start without you. The upriver stations must be relieved. The situation is grave, very grave.
Un grand merci à vous, Marc Poré, d'être venu nous parler de Conrad aujourd'hui. Non seulement votre préface au volume des textes de Conrad qu'on trouve en Pléiade est excellente, mais vous êtes aussi un excellent conteur. Alors c'est un plaisir de vous entendre nous parler aujourd'hui. Je renvoie donc les auditeurs à cet ouvrage, donc paru en bibliothèque de la Pléiade, un ouvrage préparé. On vous doit la préface, mais c'est évidemment un travail collectif. Conrad au cœur des ténèbres et autres écrits qu'on trouve donc chez Gallimard. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Géraldine, on compte sur vous pour nous sortir des ténèbres. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle et bonjour à tous, j'espère.
Oui, alors du coup, vous, c'est l'actualité, c'est pas sûr qu'avec l'actualité on sort des ténèbres.
Oh, quand même un petit peu, parce que l'actualité aujourd'hui, c'est la nature, ou plutôt les natures, dont la nature animale. C'était le thème des dernières rencontres philosophiques de Langres au début du mois d'octobre. Les natures, c'était aussi l'entrée en matière du Collège de France il y a 2 semaines, qui pour sa nouvelle saison a donc ouvert sur ce thème de la nature déclinée au pluriel, selon les termes de l'anthropologue Philippe Descola.
La nature n'est plus ce qu'elle était. C'est pendant longtemps une notion qui semblait aller de soi, qui nous était familière, en Europe en tout cas, et qui recouvrait diversement l'ensemble des phénomènes et des entités qui se développent indépendamment de l'action humaine, ou bien des espaces soustraits à l'anthropisation. Tout un ensemble de notions qui donnait une troublante unité à ce concept de nature.
Alors pourquoi la nature n'est donc plus ce qu'elle était? Pourquoi son unité est-elle troublée? Pourquoi la nature, maintenant que les anthropologues et les philosophes s'en emparent, n'est-elle donc plus la seule même? Bien, ce passage au pluriel n'est pas anodin, car à côté de la nature humaine, il faut désormais distinguer la nature végétale et bien sûr la nature animale, elle-même protéiforme, multiple, diverse. Et il faut dans le même temps penser les continuités plus que les ruptures entre ces espèces, d'où les natures, donc au pluriel. Mais tel est le problème aussi auquel sont confrontés les philosophes. Comment définir les natures de chacune de ces espèces tout en étant contre le spécisme, c'est-à-dire contre l'idée d'espèces séparées et concurrentes? Comment ne plus parler de nature comme s'il n'y en avait qu'une, mais de nature au pluriel, sans pour autant les distinguer les unes des autres et les mettre alors en concurrence? Comment, par exemple, penser les animaux pour eux-mêmes, indépendamment d'une échelle de valeur humaine, mais en tentant au contraire de les penser avec les hommes, en continuité avec eux? C'est donc bien le défi de la philosophie désormais, et le meilleur moyen d'y répondre est peut-être justement de se pencher sur les animaux. Autre grand thème de la philosophie, très actuel également, avec la question du végétarisme et du droit animal, l'enjeu est bien aujourd'hui de voir comment donner une raison d'être à part entière aux animaux tout en les intégrant à nos manières de vivre.
La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. Remarquez que les plantes peuvent se maintenir en vie sans se déplacer. Elles puisent leur nourriture directement dans le sol, à l'endroit où elles se trouvent. Et grâce à l'énergie du soleil, elles transforment cette matière inanimée qui est dans le sol en leur propre matière vivante. Les animaux, eux, donc l'homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu'en consommant cette énergie solaire qui a donc été déjà transformée par les plantes. Et ça exige de se déplacer. Ils sont forcés d'agir à l'intérieur d'un espace.
Alain René, dans son film « Mon oncle d'Amérique » avec la voix du scientifique Henri Laborie, tente justement de saisir la continuité des natures, de la plante à l'homme en passant par l'animal. Il n'y a pas de rupture ou d'unité, mais donc une continuité des natures. L'homme est lui-même un animal qui consomme et agit dans un espace. Mais on pourrait citer aussi un autre grand penseur, on pourrait aussi citer le premier à avoir pensé les animaux pour eux-mêmes et avec nous, mais aussi un des premiers philosophes et scientifiques, eh bien oui, c'est Aristote. Aristote, dont l'histoire des animaux paraît dans une nouvelle traduction. Et il faut le dire, c'est passionnant. C'est d'ailleurs la lecture qu'en fait aussi Armand-Marie Leroy, professeur de biologie à Londres. Celui-ci livre dans la Lagune son émerveillement devant les textes d'Aristote et sa description du règne animal. Le ronflement du dauphin, les vents des oiseaux ou encore l'âme des seiches. Et c'est vrai, il y a de quoi s'émerveiller dans l'histoire des animaux. Aristote décortique tout. De la différence de caractère entre les animaux, certains étant sauvages comme le loup, quand d'autres sont sur leur garde comme loi, jusqu'à la guerre et l'amitié entre les poissons, en passant par les plumes et les poils, la rate et le gosier, ou l'accouplement des quadrupèdes vivipares. Mais cet émerveillement n'est pas celui que l'on a devant des fictions impossibles, comme devant l'aventure de Conrad, mais au contraire celui que l'on peut avoir devant tant de précision et de proximité, en décrivant des petites différences et d'abord une structure commune. Si l'on s'émerveille grâce à Aristote, c'est plus de l'inquiétante proximité des animaux que de leur frappante différence avec nous.
Merci pour ce bestiaire philosophique, Géraldine. Votre enthousiasme à la lecture de cette histoire des animaux d'Aristote fait plaisir à entendre.
Ah mais c'est passionnant, il faut donc relire ou lire, découvrir cette histoire des animaux. C'est paru dans une traduction et présentation de Pierre Pellegrin aux éditions Flammarion. Et j'ai aussi cité donc le livre d'Armand-Marie Leroy, La Lagune et Aristote inventa la science. C'est aussi paru aux éditions Flammarion.
Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Maude Markiewicz, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Yvan Morane qui est à la lecture des textes, Pierrick Charles qui est à la prise de son aujourd'hui. Demain, l'aventure continue avec la messe sur France Culture, à chacun sa conception de l'aventure. Nous, on se retrouvera jeudi pour la suite de notre aventure. Nous parlerons du philosophe Jean Kelevitch qui lui distingue l'aventure du sérieux et de l'ennui. Ce sera en compagnie de Laure Barrias. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires, ainsi que sur le site internet des Chemins de la Philosophie, où vous pourrez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous jeudi à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.